Et puis sinon, donc là, aujourd'hui, pour faire un petit peu la liaison, hein, donner un petit peu le sens de comment on a construit la formation. Donc hier, c'était plus centré sur les dispositifs, les espaces et ce qui se passait au niveau des élèves, au niveau d'un point de vue apprentissage et puis d'un point de vue perspective curriculaire, d'un point de vue éducatif. Aujourd'hui, deux fils conducteurs. Premier fil conducteur, les questions de compétences professionnelles. Alors, en particulier sur les rôles de l'enseignant pour articuler, parce qu'on a vu que ça pouvait être un peu complexe, parce que effectivement, comme beaucoup de dispositifs en maternelle, il y a besoin d'articuler des espaces différents, des temporalités différentes, des groupes inhétérogènes. Hein, donc, par rapport à ça, donc une interrogation par rapport au rôle de l'enseignant et donc aux compétences qui vont être nécessaires, puisqu'on est dans une perspective aussi aujourd'hui de réfléchir par rapport à la formation. Et puis, il y a un deuxième axe qui est dans le prolongement un petit peu d'hier, sur cette fois-ci les rapports au langage. Hein, les rapports au langage oral et écrit. Donc plus particulièrement, alors ce matin, il y a à la fois le rapport au langage plus le rôle de l'enseignant par rapport en particulier à l'oral. Et cet après-midi, un travail un petit peu à la fois de témoignage de mes collègues par rapport à des mises en œuvre de formation initiale et de formation continue. Et après, un peu débattre finalement quels seraient les incontournables, comment éventuellement on pourrait penser, on ne va pas bâtir des formations parce que chacun, vous avez des projets, vous avez des rôles différents, mais essayer d'échanger, de voir qu'est-ce qui peut être incontournable dans une formation sur ces questions. Voilà. On peut peut-être commencer, Brigitte. Oui.
Donc en fait, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est une séquence autour de l'espace construction, mais une séquence qui est en lien avec l'espace nature. Donc c'est dans le cadre d'un projet d'une classe de moyenne grande section en ZEP. Donc on en a déjà un petit peu parlé hier autour de la construction de jardins en carré. Donc l'idée, c'était de voir comment s'articulait les temps d'activité autonome des élèves dans l'espace bricolage et puis des temps plus en atelier et des temps de retour sur l'action. Donc d'abord la présentation du projet. C'est un projet qui est en lien avec le projet d'école, puisque dans cette école en ZEP, la priorité était le travail sur la maîtrise de la langue, le vivre ensemble, et l'entrée qui avait été choisie, c'était la découverte du monde. Donc dans cette classe, le projet de classe, bien sûr, s'intègre au projet d'école, mais est construit autour de la découverte du vivant et des activités de jardinage. L'élément déclencheur du projet, ça a été une sortie. Les élèves sont allés, donc c'était à Rennes, où il y a une ferme qui accueille les classes de la ville. Et à cette occasion, les élèves ont vu des jardins en carré. Et ça a été un petit peu le déclencheur, puisqu'ils avaient ce projet de jardinage, mais que le patio qui était attenant à la cour est quelque chose qui est dallé, sur lequel on ne pouvait pas tellement pratiquer de plantation. Les seules plantations qu'ils pouvaient faire, c'était dans des bacs dans la cour, des petits espaces de fleurs. Donc ça ouvrait des possibles par rapport à ce projet de jardinage. Donc les étapes du projet, premièrement cette découverte, hein. Qui apparaissent comme la solution pour avoir un jardin. Donc ils ont pris des photos qu'ils ont ramenées. L'enseignante les a mises en projet. Donc c'est une classe où il y a beaucoup de moments de débat et d'échanges en commun pour se projeter sur des activités communes. Et ils ont, à partir des photos rapportées de la sortie et puis des documents que l'enseignante a pu trouver, un bouquin sur les jardins en carré dont j'ai pas les références ici, se mettre en projet pour déterminer les besoins et se dire tiens, dans notre patio, comment on pourrait faire pour construire ça. Donc ils ont commencé par un temps d'exploration libre dans l'espace bricolage, donc ce qu'on a appelé l'espace bricolage, où ils avaient des caplas dans un premier temps, et puis ensuite du matériel de taille réduite. Je vais vous détailler ça plus tard. Donc ensuite, il y a eu un temps de construction des jardins en carré par groupe. Il y a eu trois groupes qui ont construit les trois jardins différents. Et puis tout ça s'est mis en lien avec l'espace nature, où on avait déjà commencé à faire des semis, des plantations diverses. pour se continuer toute l'année sur l'entretien des jardins et puis bien sûr les moments de dégustation des diverses productions, fruits, légumes, petites herbes. Donc les différentes étapes de la séquence. À partir des observations, ils avaient conçu un cahier des charges, c'est-à-dire comment doit être notre jardin carré pour que ça marche. Ben, il doit être carré, c'était la première condition. Être en bois, être solide pour qu'on puisse le fabriquer dans la classe, mais ensuite le transporter à l'extérieur. Et puis, pour qu'il puisse contenir de la terre et que la terre reste dans le jardin, il fallait qu'il puisse être posé à plat sur le sol. Donc, premier temps, je vous l'ai dit, un temps d'expérimentation dans l'espace bricolage, construction. Comment faire? Quel mode de fixation utiliser? Donc là, ils avaient des clous, des marteaux, du scotch, de la ficelle, enfin tout ce qu'eux avaient pu envisager comme système de fixation possible pour ce jardin. Avec toujours la contrainte, c'est-à-dire qu'on essayait des choses, mais quand on revenait présenter sa réalisation aux autres, on la regardait au regard des contraintes qu'on s'était fixées de cahier des charges. C'est moyenne grande section, oui. Donc là, on voit les premières expérimentations à partir de scotch. Et puis, avec des clous. Alors non, je vais revenir sur celle d'avant parce que je vais quand même vous raconter. Toute cette phase d'exploration a duré assez longtemps quand même parce que donc à chaque fois, quand on revenait par exemple avec le scotch, quand il revenait, bon, il y en avait qui disaient c'est pas solide et les autres disaient bah, si ça va le faire, ça va tenir. Donc c'était mis à l'extérieur du patio, évidemment comme en Bretagne. Vous le savez, on est dans un climat plutôt humide. Quand il revenait le lundi, ça s'était quand même défait. Donc, ça pouvait pas marcher. Mais ils ne remettaient pas forcément en cause leur fixation. Ils ont eu l'idée de protéger leur petit jardin scotché de la pluie. Donc, ils ont construit des serres avec du papier calque. Mais avec le papier calque, l'humidité passait quand même. Donc ça a duré un certain temps. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec les caplas, c'est un bois quand même assez dur. Hein, donc, pour clouter, ça n'a pas toujours été très, très pertinent. Donc, dans un deuxième temps, l'enseignante a fabriqué du matériel en réduction. Donc, les quatre plans, enfin, donc il y avait beaucoup plus, hein, parce que plusieurs élèves pouvaient expérimenter. Mais des planches, des tasseaux, des vis et des écrous. Et puis, ils ont appris à se servir des tournevis et de la visseuse. Dans un premier temps, ce qui se passait dans l'espace, ils étaient plutôt dans la découverte de tout ça. Hein, et là, vous voyez, ils sont pas... Oui, je monte là-dessus, mais vous voyez pas ce que je... on voit bien que... où elle met son tasseau, on ne va pas pouvoir faire un carré. Ils étaient plutôt dans l'exploration du matériel, des possibles. Comment je peux assembler le tasseau à la planche, où je mets mon écrou, comment je mets ma vis, comment je me sers de la visseuse. Donc il y a eu tout ce temps. Alors j'ai plus en tête les durées exactes, hein, mais ça a duré quand même assez longtemps avant qu'ils passent vraiment à la construction, même sachant qu'ils avaient un modèle du coup. Hein. Dans l'espace bricolage, il y avait un petit jardin en carré construit. Donc ce que je voulais dire aussi maintenant, c'est que du coup cet espace est resté en permanence. Même quand ils sont passés à la construction et quand même après les jardins ont été installés dans le patio, ils pouvaient retourner fabriquer leur petit jardin. Alors, il y a eu des temps où elle était avec eux par rapport à tournevis, visseuse. Il y a eu un atelier principal là-dessus, sur lequel ils ont tourné. Mais autrement, oui, c'était une activité en autonomie. Alors, ce qui était intéressant, c'est que toute la première période d'exploration, ils étaient c'était très individuel. Mais à partir du moment où ils ont compris qu'il fallait vraiment mettre les planches et les tasseaux d'une certaine manière pour réussir à avoir le carré, là, on a vu de la coopération apparaître. Parce qu'ils étaient obligés de tenir pendant que l'autre vissait, et puis après, ils se mettaient à deux, trois. Vas-y.
Au niveau de la tâche, ça a même été un choix pour pouvoir faire ça, parce que c'était... Voilà. On avait dit, c'est une tâche sur laquelle ils vont être obligés de coopérer. Donc, ça a même été un critère du
Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc dans cette classe, ça fonctionne beaucoup par alternance des temps d'activité ou individuel ou en groupe et des temps de retour sur l'action dans l'espace regroupement. Ça a permis vraiment de construire un lexique commun, quoi. On parlait vraiment de la même chose. C'est-à-dire que tout le monde utilisait les planches, les tasseaux, les vis, les écrous, la visseuse, le tournevis. On mettait tous la même chose sous les mêmes mots. Donc une fois que tout ça a été quand même bien dans la tête des élèves, la collègue est passée à la construction des vrais jardins. Donc là, avec des planches d'un mètre. Donc l'idée, c'était, puisqu'il y avait trois jardins à construire, que ce soit trois groupes différents qui construisent chaque jardin, avec un premier temps... je sais pas dans le même ordre que sur mon truc. Donc là, oui, donc la tâche des élèves, c'était de construire ce vrai jardin en carré à quatre, puisqu'il y avait quatre planches, avec l'idée qu'ils allaient forcément être obligés de coopérer avec des planches d'un mètre. Ensuite, d'expliquer au reste de la classe, tout de suite après l'atelier, ce qui s'était passé, comment on s'y était pris, les difficultés qu'on avait rencontrées. Et puis un troisième temps qui, lui, était déconnecté du temps d'atelier et du temps d'échange, qui était en fin de journée, pour faire un petit texte en dictée à l'adulte, toujours avec le groupe de quatre, à la fois pour mettre dans le cahier de vie à destination des familles, mais aussi pour servir au groupe qui construisait la fois d'après comme point de départ. Dire voilà, nous, les difficultés qu'on a rencontrées, et puis pour essayer d'améliorer les productions. Donc, le déroulement de la séance elle-même, l'enseignante laissait les élèves pendant un temps, alors dans l'espace regroupement, parce que du coup, l'espace construction-bricolage avec les planches d'un mètre était quand même trop petit. Donc, elle avait libéré l'espace construction. Donc, pendant que les autres étaient en atelier autonome, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc du coup, les autres élèves étaient en atelier autonome. C'était l'atelier principal, mais ce premier temps d'organisation du matériel, elle n'intervenait pas. C'est-à-dire qu'elle en profitait pour aller voir ce qui se passait ailleurs et pour observer de loin comment ils s'y prenaient. Elle revenait dans un deuxième temps pour valider la manière dont ils avaient installé les planches et les tasseaux. Et puis les aider à fixer. Elle apportait à ce moment-là les vis, les écrous, la visseuse. Enfin, non, elle apportait pas les outils. Et en fonction de ce qu'il demandait, elle demandait. Puis le temps de récit, puis le temps de dicter à l'adulte. Alors ce que je vais vous montrer quand même, c'est ils en étaient arrivés dans leur phase d'exploration à se dire qu'il y avait par rapport au. Et du coup, j'ai plus le micro. Il marche. C'est bon. Voilà. Donc, ils en étaient arrivés dans la phase d'exploration à se rendre compte qu'il y avait un sens pour mettre le tasseau, pour qu'il soit bien placé par rapport à la planche, par rapport au trou. Donc, ils avaient constitué ce qu'ils appelaient le chemin du scotch. C'est-à-dire que sur les planches et sur le tasseau, qui venait se positionner là, il y avait donc un bout de scotch. Et donc, il fallait, pour que le tasseau soit dans le bon sens, que le scotch fasse un chemin. Et chaque planche et chaque tasseau, pour éviter les problèmes de toute petite... Enfin, vous verrez que ça n'a pas été complètement squeezé, mais qu'il y avait aussi une gommette. C'est-à-dire que cet angle-là, par exemple, avait des gommettes rondes et que l'autre angle avait des gommettes triangulaires. Enfin, ça jouait sur les couleurs. Donc, il savait que pour que ça puisse être montable, il fallait que le chemin du scotch soit bon. C'était un système de codage. Donc voilà, je vous ai quand même mis une petite photo des petits bons, parce qu'on voit bien la fierté et la joie de pouvoir aller installer la réalisation dans le patio. Donc après, bah, c'était quand même pas fini, mais bon, on va revenir surtout après sur la séance. Mais c'est vrai que comme c'était dans le cadre d'un projet, ça a permis de travailler sur tout ce qui était plantation par rapport à des plants, à des semis qu'ils avaient pu faire dans l'espace, découvrir des nouveaux. Il y a eu tout un travail aussi après, que j'ai pas mis dans le diaporama, mais de partager ce jardin en 9 carrés, parce qu'ils avaient... Ils avaient vu, donc il y a eu tout un travail sur les quadrillages. Oui, pardon.
C'est juste posé au sol.
Oui, c'est juste posé au sol et après rempli de terre.
Et ça coulait pas.
Bah, c'est-à-dire que c'est comment c'était posé sur le sol. La terre, bah non, justement, c'était ça la contrainte, c'est qu'il fallait vraiment que le bois touche le sol à plat pour que la terre ne passe pas. Non, c'est un système qui fonctionne vraiment super bien. Maintenant, il y en a partout dans les écoles. Oui.
C'est 1 mètre, c'est ça,
une
carte.
Ouais. Oui, j'ai pas là. Après, je pourrais vous redonner des précisions vraiment techniques. Là, j'ai pas repris, mais c'était des planches d'un mètre, ça. Ouais. Bah oui, vous l'avez vu dans la photo précédente. C'est quand même assez imposant. Il y en a une autre. Oui, après, quand on les voit. Donc, les plantations. Après, là, on revenait à l'espace nature. Du coup, il était plus seulement dans la classe. Il était aussi à l'extérieur de la classe. Donc, ce qui veut dire que dans les moments, comme on parlait des coins hier, hein, au moment des délestages, de l'accueil, quand on a fini son atelier, il y avait toujours des élèves qui pouvaient aller s'occuper du jardin, désherber. Donc là, vous les voyez, hein. Donc, posé sur le sol. Donc ça, on a vu hier, hein, on vous en a parlé, donc tout le questionnement qu'il y a pu y avoir autour de où trouver l'eau, comment faire pour arroser. Et puis bien sûr, bah, toutes les activités de récolte qui a permis de faire un travail, bah, justement comme on en parlait hier soir, dans l'espace cuisine. De laver la salade, il y a eu tout un échange que Marie-Vonne a filmé aussi sur essorer la salade. Aller chercher l'essoreuse et déjà identifier ce que c'était qu'une essoreuse, ça a pris un certain temps. On s'est rendu compte que c'était un objet qui était pas si évident que ça. Puis toutes les dégustations des fraises et tomates et radis, et voilà. Donc Voilà pour la présentation globale du projet, sachant, comme vous l'avez dit hier et comme vous partiez, il y a eu plein de choses qui se sont passées ailleurs et autrement. En art visuel, ils ont construit des épouvantails parce que les oiseaux venaient manger leurs fraises. Enfin bon, il y a eu des choses qui ne sont pas en lien direct avec ce que je voulais vous présenter, mais qui sont venues en lien. Comment ? Ah oui, il y a eu aussi le tutorat avec les petits, puisque du coup, les petites sections, quand ils ont planté dans les... Je vais peut-être revenir en arrière. Les petites sections, quand ils sont... Quand eux, ils ont voulu planter dans les jardinières de la cour, c'est les grands et les moyens de cette classe-là qui leur ont expliqué comment faire. Donc, dans le cadre du décloisonnement, quand les petits se levaient, ils venaient chercher un grand qui allait l'accompagner pour faire les plantations. Et les petits, du coup, ont aussi planté des tomates après. Enfin bon, il y a eu... En maîtrise de la langue, ils ont écrit les étiquettes. Enfin bon, il y a vraiment. Enfin, vous voyez, vous connaissez, c'est bien, bien ça. Une question.
Est-ce que l'école a installé un récupérateur d'eau sur une
gouttière ? Non, non, non. Là, ça, c'est vrai que ça n'a
c'est
pas.
Un
ouais. Oui. Non, ils avaient mis des seaux, mais après, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas. Oui, oui, c'est vrai que c'est une idée pour. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est pas. Donc, hop. Donc là, ce que je voulais essayer enfin, je vais pas essayer, je vais le faire. Je vais vous montrer un peu quelle a été ma réflexion par rapport à cette séquence pour essayer de voir quelle était la démarche de l'enseignante dans son anticipation et comment elle arrivait à articuler différentes entrées en pensant les lieux, les temps et les élèves dans la séquence. Donc je vous l'ai dit, il y avait trois groupes d'élèves, trois temps de construction, mais ces trois temps de construction, il se faisait au regard de l'expérience du groupe précédent. Avec aussi la volonté d'aménager les temps autonomes dans les espaces et puis des temps d'action en atelier, enfin en atelier dans l'espace, mais plutôt sur une tâche donnée, et puis toujours un temps de retour sur l'action dans l'espace regroupement. Donc c'était par ces alternances-là qu'elle réussissait à faire avancer à la fois la tâche et à la fois les apprentissages. Et donc le petit schéma que je vous ai construit, c'était pour vous montrer qu'en fait, dans son anticipation des groupes, elle avait pensé aussi la différenciation et elle était partie sur des groupes hétérogènes, mais sachant qu'on pouvait avoir deux manières d'entrer dans cette activité-là, soit dans un... différentes manières d'entrer dans cette tâche-là. Un premier temps pour le premier groupe qui était donc des enfants qui, même si c'était un groupe hétérogène, il n'y avait pas d'enfants en grosse difficulté, où ils rentraient directement par la construction. C'est-à-dire qu'ils étaient confrontés comme ça d'emblée à la tâche de coopération avec les grandes planches et tous les problèmes. Donc c'est le petit chemin noir. Donc ensuite, un temps où on expliquait, où on racontait aux autres ce qu'on avait fait, les problèmes qu'on avait eus. Et puis là, le temps j'ai mis raconter parce que quand même ce qu'ils ont produit à l'écrit, c'était plutôt de l'ordre du récit que vraiment, même si quand on regarde le texte, on peut voir par rapport à tout le langage qu'on disait hier, on voit quand même l'apparition de connecteurs, on voit des moments où ils se décentrent un peu, mais c'est, ça reste quand même... donc ce temps... Et puis après, bah, eux, ils étaient en position d'écouter. Ils avaient fait tout ce chemin-là, et puis ils écoutaient les autres. Mais par contre, les groupes qui passaient après, et notamment le dernier groupe, c'était des élèves qui avaient un petit peu plus de mal à rentrer dans la tâche. Donc eux, ils avaient été en position d'écouter d'abord. D'écouter, de voir le jardin, parce que quand on était dans l'espace regroupement pour expliquer ce qu'on avait fait, le jardin était au centre. Donc ils avaient déjà vu la construction finie, ils avaient entendu ce qu'en disaient les autres, deux fois, avant de s'y lancer. Donc cette idée de différenciation et du coup, ce qui me paraissait intéressant dans sa façon de procéder, c'est que ça donnait du sens aux verbalisations. C'était pas revenir sur l'action pour revenir sur l'action, c'était revenir sur l'action parce que ça pouvait aider le groupe qui allait passer après. Donc ça, c'était un point... Donc du coup, on avait différentes tâches pour construire le jardin carré. Ben, on pouvait être à la fois acteur, on pouvait être narrateur, on pouvait être auditeur, mais on était toujours concerné parce que c'était le projet de la classe. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur cette séquence. Donc, l'idée maintenant, ça serait peut-être de... On va regarder ensemble, je vous ai fait le synopsis des différentes parties pour qu'on regarde, mais assez rapidement, les différents temps et ce qui s'est passé. Alors, attends, parce que là, il y a 1 et 2, et là, il y a 3, donc on va peut-être les faire...
Non, toi, j'ai distribué
3-4. Tu dis... Et puis après, oui.
Les autres ateliers qui se déroulaient pendant l'atelier principal.
Attends, vas-y, distribue le synopsis d'abord.
Pas forcément. Non, le principe de la... Enfin, c'est vrai que nous, on travaille toujours en atelier. Et donc, il y a des ateliers en lien avec le projet, mais pas tout le temps. Donc là, comme ils étaient sur des tâches autonomes, il y avait des activités en graphisme, en écriture. Il y avait en art visuel, il y avait un atelier à la peinture... Il y a d'autres questions pendant que...
Oui, t'as une question.
Oui, pardon.
L'expression du prêt longtemps, qu'est-ce que ça veut dire longtemps?
Alors maintenant, j'ai plus, hein, mais pour moi, ça a quand même duré plusieurs semaines où ils avaient tous les jours le matériel. Oui, moi, je dirais pas loin de 3 semaines où ils avaient le matériel à disposition. Et pendant toute la durée du projet, ils ont gardé l'espace bricolage, était toujours ouvert. Et ils avaient toujours la possibilité de refaire en miniature les petits jardins. Et d'ailleurs, après, il y a eu un, ils ont voulu... ça s'est terminé, où ils ont construit chacun leur petit jardin parce qu'ils ont tous voulu en emmener, hein, forcément. Donc... ils ont tous eu leur petit jardin miniature. Le document qui s'appelle le discours de l'enseignant dans la séance, on va le regarder après. Hein, c'est là, on aura un petit temps de travail plus approfondi sur ce document-là. On va d'abord regarder un petit peu le. Donc à partir de la vidéo, j'ai fait un découpage synoptique en séance, en petites séquences, en petits moments, quoi.
On parlait de pratique authentique aussi. L'idée aussi, du coup, c'était pour se rassembler d'un potager qui est bien ordonné, etc. Donc l'idée de quadrillage aussi, ça venait aussi qu'il fallait qu'on puisse retrouver ses légumes, etc. Donc c'était en relation avec des pratiques de référence de jardin potager dans lequel c'est ordonné, dans lequel on fait pas n'importe quoi, etc.
Voilà. Donc tout le monde a les documents. Donc si on regarde le premier temps de construction, donc je l'ai fait que sur là c'est le premier groupe qui est passé. Hein. Donc dans un premier temps, il y a la phase de consigne, où on y reviendra après, hein, vous avez dans le transcript cette consigne-là. Elle laisse ensuite les élèves, bon on n'a pas le temps aujourd'hui de regarder les vidéos, mais c'est assez intéressant de voir comment ils s'organisent et comment au début la coopération n'est pas si évidente que ça. Hein, où chacun prend sa planche et puis il faut quand même un certain temps avant qu'ils se disent bah oui mais même si j'ai ma planche et mon tasseau va bien falloir que je m'entende avec le copain pour que tout ça se mette en place. Ça prend un certain temps, mais on voit qu'après ils arrivent à s'organiser et à prendre chacun un angle et à tenir l'angle, et ce mot angle revient dans leurs propos, enfin, surtout quand après ils reprennent la validation. Donc ils s'organisent. Dans un troisième temps, elle vient, elle valide. Donc là, la validation, elle se fait donc par le chemin du scotch, comme on l'a dit, et elle leur donne les vis et les écrous. Donc ensuite, à partir de l'épisode 5, on a tout un moment où ils sont confrontés à des problèmes. Premier problème, il y a une gommette qui cache le trou, elle peut pas mettre sa vis. Donc là, à chaque fois, l'enseignante essaye de renvoyer le problème à l'ensemble du groupe. Et puis, il trouve une solution. Ensuite, un problème où là, alors on y reviendra aussi tout à l'heure... ils n'arrivent pas. Alors en fait, on s'est confronté à un problème, c'est qu'au bout d'un moment, certains trous de tasseau n'étaient pas vraiment en face du trou de la planche, et donc ils pouvaient pas aller jusqu'au bout de leur. Donc ce problème-là qu'ils ont mis du temps à exprimer, on le verra tout à l'heure dans le transcript. Et puis ensuite des temps où ils avaient besoin d'outils et où à chaque fois, dans l'action, elle essayait de revenir. Sur de quoi on a besoin, où là on était quand même sur des échanges, mais des échanges vraiment de langage implicite ou enfin vraiment du langage oral en situation. Donc
ce qu'ils appellent problème, c'est pas un problème scientifique, c'est un problème pratique.
Oui, voilà, un problème technique, ils sont confrontés. Oui. Ah oui, oui, là on est vraiment dans l'action de l'assemblage. Donc ils arrivent quand même à assembler sans mettre toutes les vis, puisque je vous dis, à certains endroits, on avait ce problème de connexion. Et puis, elle rassemble tout le monde dans l'espace regroupement. Les 4 acteurs sont mis ensemble à un endroit, et le jardin est au milieu, et ils expliquent pourquoi ils n'ont pas pu finir. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce temps de retour sur ce qu'ils ont fait, ils sont plutôt sur quelque chose de chronologique, hein, qui n'est pas du tout de l'ordre du questionnement ou de l'explicitation. Elle est obligée de faire préciser pour qu'ils arrivent à expliciter les problèmes et la solution. Et donc ensuite, à l'épisode 7, elle les projette sur la suite du travail, comment on va faire l'après-midi avec, en ramenant la perceuse pour pouvoir finir le jardin en carré. Et puis, comment est-ce qu'on va pouvoir le transporter, comment on va le positionner pour le faire passer par la porte. Ça a été aussi un moment d'échange assez important. Comment on le met, comment on le porte pour pouvoir l'emmener dans la cour. Voilà. Et donc, décaler en fin d'après-midi le travail de dictée à l'adulte. Alors, il faut savoir que, je peux peut-être juste dire deux mots, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais dans cette classe-là, elle a une façon de... Pour ce temps-là, ce premier temps de dictée à l'adulte, elle est plutôt sur ce qu'on pourrait appeler une prise de notes, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour sur le texte travaillé. Le retour sur le texte travaillé, elle l'a fait à partir des textes des trois groupes. Donc là, elle est plutôt sur une prise de notes, donc elle fonctionne avec une feuille à colonnes, où elle note les propos de chaque élève dans chacune des colonnes. Hein, donc on est plus vraiment sur... Donc chacun, à son tour, dit ce qu'il a à dire et elle relie en fonction pour faire avancer. Donc ils reviennent sur comment mettre le matériel, sur les règles d'assemblage. Elle reprend une erreur chronologique et puis tous les temps d'explicitation des problèmes, des outils. Avec des élèves qui s'égarent et qui reviennent sur des vécus personnels, hein, au niveau de la perceuse, un élève qui était en difficulté et un élève en difficulté qui en fait là prend la parole un temps très long pour parler, il ne retrouve pas le nom de la perceuse mais il sait que son grand-père en a une et donc ça dévie mais elle le laisse parler. Puis le temps de relecture, la suite, et là, à la fin, ils se mettent en projet. Hein. C'est-à-dire qu'ils quittent la relation de ce qu'ils ont fait pour dire, oui, mais après, on va planter. Et là, ils parlent de leur plantation avant de revenir. Donc, elle relit la totalité du texte. Et pour finir, elle redit à quoi va servir ce texte, hein, pour que les papas et les mamans comprennent bien ce qu'on a fait. Elle ne reparle pas du lancement en atelier. Donc, voilà comment s'est découpée un petit peu la séance. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de rentrer plus précisément dans sa posture à elle dans la séance. J'ai sélectionné des petits bouts de transcript que je vous ai donnés. Donc il y a différents temps. Il y a la consigne de départ pour lancer l'activité en autonomie, sa consigne quand ils reviennent après avoir construit. Là, donc un premier temps sur les consignes. Ensuite, quelque chose un problème qui se révèle pendant la construction, et puis quelque chose après, comment elle est pendant la dictée à l'adulte. Donc l'idée, c'était de se donner peut-être, je ne sais pas, Marilyn, 10 minutes, un quart, 10 minutes, peut-être individuellement, pour s'approprier les extraits de transcripts, et puis essayer de voir ce qui vous permet, dans les énoncés, relever de la posture, qu'est-ce qu'on pourrait dire de sa posture à partir de son discours, quoi. Donc un petit temps individuel de réflexion et puis après un échange. Donc ce que je voulais dire en préambule, c'est que je ne suis pas linguiste du tout. Je suis pas, je suis, comme dit Marilyn, une spécialiste de la non-spécialité. Je suis professeur des écoles. Donc voilà, je voulais le poser en préambule. Je vais pas, enfin. Je n'ai pas la prétention de faire une analyse linguistique du discours enseignant. C'était plutôt essayer de voir ensemble ce qui pouvait dans le discours être intéressant au niveau de tout ce qu'on a dit. Hein. Voilà, resituer les choses. Donc je vous donne la parole. Peut-être on va d'abord s'intéresser au temps de consigne, ce qui vous paraissait...
J'avais plutôt repéré une opposition entre la façon dont elle s'adresse au grand groupe, au grand groupement, et la façon dont elle s'adresse aux enfants dans l'atelier de construction. C'est-à-dire, dans l'atelier de construction, elle est plus en relation duelle avec l'enfant. Tu vas m'expliquer, il y a le M apostrophe, alors que quand elle est dans le coin groupement, c'est toi, N, tu vas nous montrer. Elle n'est plus dans la relation duelle avec l'enfant, mais elle implique les autres. Voilà.
Donc effectivement, enfin, on n'est pas des spécialistes sur les postures énonciatives. Hein. Il y a Pierre Abatel qui est plus que nous. Ça, mais ce qui nous a semblé intéressant, ce sont les dynamiques. C'est-à-dire que c'est pas là du coup on a mis des extraits, mais c'est intéressant de éventuellement par exemple en formation de se rendre compte de la dynamique du positionnement de l'enseignant. Par rapport justement à ces articulations un peu complexes de travail de groupe, de reprise de consignes individuelles et au moment des regroupements, et qui peuvent se retrouver d'une manière indirecte dans les postures énonciatives entre les on, les nous, les je, les tu. Hein. Donc c'est vrai que au niveau des enseignants experts, si je puis dire, qui sont d'une manière implicite, sans que ce soit évidemment, on a des dynamiques très très de changements comme ça de posture énonciative selon qu'elle s'adresse à une reprise de consigne individuelle, selon le petit groupe, et puis au niveau des regroupements, effectivement, une idée de une forme un peu de grand collectif, un ensemble, hein, et qui est renforcé par la posture.
C'était un peu la remarque que je faisais, c'était vraiment que on a ces vous. Enfin, je trouvais qu'elle arrivait à garder le groupe en disant les nous, hein, les nous, vous allez nous construire, c'est-à-dire vous allez faire quelque chose pour nous, donc on est quand même bien dans le grand groupe, mais c'est vous qui allez le faire, hein, vous allez nous construire. Et puis elle disait les ils aussi, hein, ils vont essayer, donc eux ils vont réfléchir, elle crée deux groupes, ceux qui vont agir, ils vont essayer, ils vont nous construire, pendant que nous on sera ailleurs dans les ateliers. Et puis quand je reviendrai, il y a aussi les temps qui structurent un peu la séance. Hein, quand je reviendrai, ben, j'espère que vous aurez fait. Donc elle donne une échéance simplement par l'utilisation des temps. Donc voilà, moi c'était ce qui m'avait quand même assez intéressé dans cette consigne-là, c'était que par l'utilisation des pronoms personnels, elle arrivait à faire passer des choses sur l'organisation et des temps et des acteurs, quoi. Comment ça s'organisait dans cette...
Comme on est en train de réfléchir sur les questions d'espace, c'est aussi intéressant de relever si dans son discours, elle spatialise ses attentes, elle spatialise le travail des élèves, elle spatialise le moment où on va se retrouver tous ensemble. C'est peut-être une dimension sur laquelle on pourrait se poser des questions, puisque c'est la thématique de notre séminaire. Elle commence par spatialiser immédiatement les choses en disant « Vous allez rester ici sur le banc ». Parce que combien de fois on observe dans les pratiques débutantes, vous allez faire, les enfants se lèvent, ils n'écoutent pas la consigne, ça y est, ils sont partis. Donc elle commence tout de suite par dire, vous allez rester ici sur le banc. Elle dit pourquoi. Puis après elle dit, on sera dans les autres ateliers. Donc il y a un deuxième temps et on voit bien qu'à nouveau l'action va être spatialisée ailleurs. Et puis l'idée de revenir... Je vais revenir, moi, des ateliers. Là, on aurait peut-être aimé qu'elle spatialise en disant ben, « Je vais revenir où, quoi, pour voir qui ?» Voilà, c'était juste une histoire de se titiller la tête sur les questions d'espace, parce que j'ai pas oublié l'intitulé de notre réflexion.
Moi, j'adhère complètement, effectivement, à tout cet accompagnement qu'on sent bien, là, et qui est... Alors, par contre, sur le strict plan du langage et du parler à l'élève, et je crois que c'était sûrement avant les préconisations fortes sur le langage en maternelle et la façon... Parce que, et en particulier dans les relations duelles, parce que quand la maîtresse s'adresse au grand groupe ou quand elle retranscrit ce qui va être écrit, tout va bien... à peu près bien, mais alors dans la relation duelle et quand elle s'adresse directement à l'enfant, c'est-à-dire là où l'élève est le plus dans l'écoute, il y a des choses choquantes, enfin, au niveau de la construction du langage. Et mais je le dis tranquillement, je connais pas cette personne, il y a pas. Mais je crois que ça, les bains, t'as raison, le trou est pas en face. Voilà. On aurait préféré voir, eh bien, tu as raison, le trou n'est pas en face. Et je crois que là maintenant, enfin, ça doit être vraiment notre souci. Enfin, on le prend en plein dans les oreilles quand on est observateur au fond d'une classe, et les enseignants en ont plein la bouche et ils ont raison de l'importance de la langue orale, de la construction du langage et tout ça. Mais bon, maintenant, il est avéré qu'il faut que l'enseignant soit un modèle au niveau de la langue orale.
Donc ça, c'est bon. Et je rajoute quelque chose, en particulier quand on va voir les PE2, par rapport aux visites, c'est bon, la pratique moi que j'utilise pour ça, je fais des prises de notes in extenso de leurs propos, et bon, c'est vraiment l'argument qu'on a par rapport à l'échange après. Et on voit bien, quand on fait des transcripts, on a beaucoup fait de transcripts. C'est vrai que le transcript nous permet d'avoir un véritable regard sur la parole du maître. C'est important de le faire, d'enregistrer et de transcrire.
Je voulais juste dire aussi que c'est vrai que là, ce qu'on peut dire à sa décharge, mais je suis tout à fait d'accord avec les remarques et sur l'exigence qu'on a à avoir par rapport au langage dont on parle. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est vraiment dans la phase d'action où elle est confrontée elle-même à la... je dis ça simplement, c'est vrai qu'on a tous des petits défauts de langage qui nous échappent, mais je suis tout à fait d'accord avec l'exigence...
Pour l'avoir vécu personnellement et avoir enregistré des travaux de groupe dans lesquels j'intervenais pour justement le transcrire et voir des interactions langagières, j'ai eu à m'entendre parler à mes élèves et c'est une prise de conscience très, très forte. Donc c'est vrai que très clairement, je me suis dit il faudrait que chacun d'entre nous vive cette expérience-là, de s'enregistrer dans l'action pour justement percevoir la négation que vous pointiez, l'une d'entre les participants au groupe, j'ai perçu comment, alors que j'essaye d'être attentive à mon niveau de langue, dans l'interaction avec l'enfant, j'avais occulté la première partie de la négation. Donc c'est vrai que cette prise de conscience, elle passe peut-être par l'enregistrement de chacun dans l'activité.
En fait, c'était juste pour rebondir aussi là-dessus, parce que je trouve que c'est peut-être une réflexion du coup que nous pouvons avoir sur peut-être un certain nombre d'articulations entre la didactique et la pédagogie. C'est-à-dire à un moment donné, la nature non pas des contenus, des propositions sur lesquelles on travaille, la vis qui est en face ou qui n'est pas en face, etc. Mais sur justement les modalités de langue, d'énonciation, d'échange, de conversation avec les élèves pour avoir la langue adaptée qui nous permettent à la fois d'être compris, de les comprendre, et puis, alors c'est un des débats aussi quelquefois, de se mettre à leur niveau avec peut-être des mots du vocabulaire mieux adaptés, moins difficiles, etc. Et du coup, même syntaxiquement, ça produit des relâchements ou des manques de vigilance, mais je pense que le problème, du coup, devient plus pédagogique souvent que non.
Oui, je crois, oui. Non.
Moi, je voulais juste... je ne suis pas en désaccord complet, mais c'est sur cette distinction entre le pédagogique et le didactique. Pour moi, la langue, elle fait partie du didactique. Hein, et là, justement, par rapport... C'est pas seulement une question de correction de la langue. C'est qu'on est en science et on a un usage de la langue qui n'est pas le... Et je veux dire, on est en science, c'est-à-dire on fait des choses sérieuses aussi. On n'est pas dans la rue, on n'est pas dans la cour. Le niveau de langue, il est adapté à l'activité. Et pour moi, c'est de la didactique, c'est pas de la pédagogie. C'est le cœur même de l'apprentissage. On ne peut pas dissocier ce qui relève de la langue et ce qui relève du concept. On est d'accord là-dessus. Oui, mais justement, est-ce qu'on se trompe pas, là hein?
Moi, il me semblait que ce n'était pas tant dans la recherche d'une relation particulière avec l'élève, c'était juste parce qu'elle, peut-être, elle était confrontée à une difficulté. C'est-à-dire qu'elle elle réfléchit en même temps. Effectivement, j'essaie de comprendre le problème qui est en jeu. Et donc, c'est le témoignage, peut-être, justement, d'un problème didactique, finalement, d'agir en situation par rapport à une difficulté. Bon, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'elle hésite, elle doute, elle ne sait pas, elle reprend les formulations de l'élève. Enfin, bon.
Non, mais c'est vrai que, pour avoir vécu de quelques années déjà, ce genre de transcrit, il y a 10 ans, on ne s'aurait posé aucun problème. et même il y a 5 ans, j'allais dire, hein, parce qu'au contraire, on voyait, on savait, c'était la transcription. Mais c'est vrai que maintenant, et je crois qu'il y a une vraie posture à changer, et qui est pas du tout facile, parce que dans le feu de l'action, chasser le naturel, effectivement, c'est prouvé, hein, à peu près comme la production d'écrit que nous évoquait Madame hier. Donc, j'allais dire, faut s'y mettre et le transcrire, quoi, enfin, et le transposer dans toutes les disciplines. Mais voilà.
Donc, je dis juste un, parce que en fait j'étais moi j'avais analysé un petit peu comme vous, et c'est pour ça que j'avais mis ce morceau de, j'avais choisi cet extrait parce que je trouvais que par rapport justement où à la consigne où on sent bien que c'est quelque chose qu'elle maîtrise complètement, que c'est vraiment quelque chose d'incorporé, que les on, les nous, les hop, tout ça, ça roule, autant là on voit bien que je sais plus ce qui se passe. Je suis comme eux. Elle est dans une posture à la fois où elle observe avec eux. Enfin, j'avais trouvé. Voilà, c'était.
Moi, j'avoue, quand j'ai lu le transcript de ce discours de l'enseignante pendant l'action de construction, sans en avoir discuté avec vous, pour moi, j'ai vu quelque chose d'intentionnel, indépendamment du niveau de langue qu'elle utilise, pour renvoyer le problème à l'enfant, pour que l'enfant qui dit on a un problème maîtresse. C'est pas elle qui relève, qui nomme le problème. Elle renvoie à l'enfant son expression pour que ce soit l'enfant qui formule où est le problème. Peut-être qu'elle, elle l'a. Moi, j'imaginais qu'elle avait vu le problème. Elle l'avait peut-être même intentionné. Alors, mais même si elle le découvre avec l'enfant, elle n'a. Me semble-t-il, il me semblait que le discours qui accompagne la démarche de l'enfant, c'est justement un discours qui va l'emmener à formuler le problème lui-même, mm-hmm. et pas à apporter une solution, à dire « Ah bah oui, je vois, là, c'est parce que... » quand j'ai lu ce discours, moi, j'ai imaginé qu'indépendamment de la découverte du problème, elle renvoyait l'enfant à l'énoncé. Ça nous arrive dans notre pratique. L'enfant nous dit « j'ai un problème », on imagine que c'est un autre problème que celui que lui a réellement. Donc le fait de renvoyer l'interrogation à l'enfant va faire que l'enfant va préciser sa pensée, va être capable d'énoncer clairement ce qui fait la difficulté avec les indices qu'il a pu prélever. Donc pour moi, j'ai pensé que c'était une posture de renvoi de l'explicitation du problème.
Oui, juste une petite remarque qu'on avait déjà faite, me semble-t-il, hier en visionnant une vidéo. Le langage dans l'action, quand de surcroît il y a un problème qui surgit, c'est soit un langage extrêmement pauvre, et en tout cas jamais élaboré, même sans épiloguer sur le langage de la maîtresse, mais c'est très pauvre ce qui surgit dans l'action immédiate, et on l'avait déjà remarqué hier, il faut qu'il y ait une mise à distance par rapport à l'action pour que ce langage scientifique attendu devienne un langage qui s'élabore, me semble-t-il.
Donc effectivement, on va peut-être, hein, parce qu'on va travailler dans ce qu'on peut un petit peu, sans conclure, mais faire un petit peu un point, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois les postures énonciatistes de cette enseignante, qui est une experte, hein, franchement, c'est une enseignante experte, avec effectivement ces articulations de différents types de langage, langage d'action, langage de retour sur l'action, etc. Et effectivement, puisqu'on est ici dans une perspective aussi de formation, comme vous disiez, peut-être à intégrer plus, d'une manière générale, la nécessité d'une rigueur de langage oral. C'est quand même du langage oral. Il n'est pas question de confondre du langage oral et du langage écrit. Hein, ce sont des non. Mais quand même, en tant qu'enseignant, tout enseignant, devant intégrer, y compris pour nous, hein, c'est difficile parce qu'on n'a pas toujours forcément l'attention de mais dans une contrainte de formation, effectivement, donc effectivement, inciter les stagiaires à s'enregistrer, à s'écouter, essentiellement pour prendre compte, éventuellement, se rendre compte des progrès à effectuer. Hein, c'est plutôt dans cette posture de formation après, dans une exigence nouvelle qui est de attention aussi à la correction maximum en tant qu'enseignante, en particulier en maternelle, avec la difficulté que ça pose, hein, parce que effectivement, quand on est pris dans... On n'est pas toujours vigilant à ces ensembles de corrections orales. Mais effectivement, avec l'idée aussi qu'il n'est pas question de passer à des normes de langue écrite, puisqu'en fait, ce sont des, c'est une autre fonction.